Genèse chapitre 28 et à partir du verset 20. C'est la prière d'un homme qui a vraiment envie que Dieu lui fasse du bien. Ça part d'un bon sentiment, bien évidemment. Et vous allez voir avec moi que derrière sa prière, il y a forcément quelque chose de très intéressé. Qui n'a jamais prié de façon intéressée? On a tous prié un jour de façon intéressée, en espérant que Dieu puisse nous entendre et faire quelque chose pour nous. Et elle est intéressante parce qu'on va la lire maintenant et on va faire un bond de plusieurs dizaines d'années et le retrouver quelque temps plus tard. Genèse chapitre 28, donc, et verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Il vient de dresser une pierre à un endroit dont il va donner un nom, et ce nom sera le nom de Bethel. On le trouve juste un petit peu avant. On va au chapitre 35, verset 1er. 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Amen. On peut, pour compléter, si vous voulez, je ne pensais pas le lire immédiatement, mais on pourrait compléter en allant à peine plus loin, verset 11. Même à partir du verset 9, « Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est la phrase, c'est ce qu'il va dire. Juste un petit peu avant, je lisais pour vous, dans ce fameux chapitre 35, il a dressé un autel au Dieu qu'il a exaucé dans le jour de sa détresse. Dans le jour de sa détresse, et qui a été avec lui pendant le voyage qu'il a fait. Alors, on revient sur le parcours de cet homme, et évidemment, comme dans la vie de tous, il y a toujours un départ, des étapes et une arrivée. Ça se passe comme ça pour vous aussi, hein. C'est un peu comme le Tour de France. Il y a un départ, il y a des étapes, il y aura une arrivée. L'important, c'est d'arriver. Même si on n'est pas maillot jaune, l'important, c'est d'arriver, au moins d'aller au bout de la course. Et je m'aperçois, quand je regarde un petit peu le parcours de cet homme, il a eu un mauvais départ et il a quand même eu une bonne arrivée. Vous choisissez quoi, vous? Un bon départ et une mauvaise arrivée, ou un mauvais départ et une bonne arrivée? Pourquoi vous riez? Ça paraît évident, hein? Ouais. Maintenant, on peut peut-être choisir un bon départ et une bonne arrivée. Ouais, aussi, je m'en doutais. Mais ça, je ne vous le fais pas, c'est trop facile. C'est sûr que tout le monde veut ça, mais ça ne marche pas. Hein. En général, il y a toujours des à-coups, il y a toujours des situations qu'on ne voudrait pas. Ce qui fait que durant le voyage, même si le départ est formidable, il y aura quand même des accros, il y aura quand même des difficultés. Et l'histoire de Jacob, c'est l'histoire de la vie, le voyage de la vie en somme. des moments heureux, des moments difficiles, des moments faciles, des moments tranquilles, des moments très, très, très angoissants. Mais ce qui m'importe, c'est ce qu'il a dit au départ. Si Dieu, tu es avec moi, si tu me gardes, si tu veilles sur moi, alors je te ferai confiance, tu seras mon Dieu. Et à la fin, quand il s'est passé, c'est pas la fin de sa vie, mais c'est au moins la fin d'une sacrée étape dans sa vie qui aura duré plus d'une vingtaine d'années, quand il arrive au bout de cette course-là, il dit « L'Éternel a été avec moi dans la détresse ». C'est un beau témoignage quand même, hein ? Vous trouvez pas ? L'Éternel a été avec moi dans ce temps de détresse. Alors un homme, Jacob, c'est un homme qui se cherche. C'est une drôle d'expression, ça, vous trouvez pas ? C'est un peu psy. Un homme qui se cherche, comme quelqu'un qui va consulter un médecin et qui dit « Je suis suivi ». Il faut expliquer, hein ? Sinon ça fait un peu bizarre. Hein ? Voilà, ouais, ouais. Et toi, tu suis quelqu'un ? Tu vois quelqu'un ? Bref, le fait est que c'est un homme qui se cherche. En fait, comme n'importe qui d'ailleurs, c'est quelqu'un qui doit construire sa vie. Et ce qu'il construit, ben, c'est une piètre réputation. On aurait rencontré cet homme, je ne sais pas, dans un endroit particulier, on aurait échangé, je ne sais pas si, imaginez qu'il se serait tenu sur un banc devant un arrêt de bus avec une boîte de chocolat pour dire que la vie, c'est comme une boîte de chocolat, enfin, pour citer peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Le fait est que cet homme, si on avait discuté avec lui, on se serait dit, il est bizarre cet homme-là. Je suis persuadé que vous auriez dit, Jacob, il est bizarre. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, dès le départ, est intéressé par les choses de Dieu. Il a, si vous voulez, un profil psychologique intéressant, diraient certains, ou peut-être complexe d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui aime les choses de Dieu, mais pour les obtenir, il fait exactement tout ce que Dieu n'aime pas. C'est surprenant ça quand même. Il voudrait suivre Dieu, marcher avec Dieu, et vivre de belles expériences avec lui, et pour y arriver, tous les moyens qu'il utilise sont mauvais, sont mauvais. L'Écriture nous dit que rapidement, alors qu'il il a un frère jumeau, ils ont grandi et bon, il y avait un ordre de priorité et en fait, il n'était pas l'aîné, il était le cadet. Même si ça se jouait à pas grand-chose, le fait est qu'il est arrivé en second, il n'était pas loin derrière parce qu'il tenait le talon de son frère en sortant. Ce qui lui a donné son gentil nom, tu seras appelé le supplanteur, Jacob. C'est pas tellement heureux, mais bon, c'est comme ça. Et le fait est que ça va le poursuivre quand même, parce que d'un moment plus tard, alors qu'il doit avoir envie des choses de Dieu, la Bible semble témoigner que son propre frère n'était pas tellement intéressé par les choses de Dieu, tandis que lui, oui, alors il va voler à son frère un droit d'aînesse, il volera à son frère une bénédiction qui lui était réservée. Bref, il cherche à obtenir de bonnes choses avec de mauvais procédés. J'ai l'impression que souvent, on a fait la même chose. Pour obtenir certaines choses, de bonnes choses, choses légitimes, on n'a pas toujours utilisé forcément des bons procédés. D'ailleurs, certains vous diraient, mais utilisez de bons procédés, allez-y, vous n'obtiendrez jamais rien. Un peu truander, un peu tricher, un peu voler, un peu mentir, ça ne fait pas de mal quand même. Ce sont des péchés véniels, c'est ça ? Pas mortels, dit-on. Mais à bien y regarder, ça dépend qui est lésé, hein ? Parce que pour le voleur, il n'a pas fait de mal, mais pour le voler, ce n'est pas la même chose quand même. Hein, parce que forcément, il lui manque quelque chose. J'ai failli un jour rentrer à pied, après une réunion, parce que je me suis fait voler ma voiture, devant l'église. Incroyable. J'étais garé devant l'église, vous imaginez, la porte d'entrée, l'église est derrière moi, l'intérieur de l'église est derrière. La porte est là, là vous avez le trottoir, et ma voiture était garée devant, juste là quoi, donc à 2 mètres, hein. La largeur du trottoir. Et à la fin de la réunion, c'était un soir, je salue les gens à la sortie, et comme ce n'était pas fait comme ici, j'étais en fait sur le trottoir. J'étais dehors, et ma voiture était là. Et je dis au revoir à la dernière personne, le dernier couple s'en va. Le temps que j'aille de la porte d'entrée aller chercher mes affaires qui étaient devant, c'est-à-dire du côté de l'estrade, allez, il n'y avait pas la profondeur de cette église, c'était bien plus court, hein. J'entends un espèce de gros bruit, mais dans le quartier, ils faisaient souvent des rodéos avec des voitures, j'entends que... Et puis tranquillement, je sors, j'éteins les lumières, dehors, plus de bagnole. Disparu. Dis, c'est pas possible.
Elle était là, allez, à tout casser, je ne sais pas, une minute peut-être, je ne sais pas, ou 40 secondes, enfin, le temps de faire la... Non, allez, peut-être une minute trente. Je lui dis, mais c'est incroyable, elle est où ma voiture? Et là, je vois un couple qui venait de démarrer leur voiture, qui sortait de l'église, et je les interpelle pour leur dire, hé, j'ai pas envie de rentrer à pied, hein. Attendez-moi, on va aller au commissariat parce que j'ai plus de voiture. Et même eux, ils n'en venaient pas. Et à ce moment-là, on entend un bruit. Alors, un bruit, j'avais pas une Subaru, hein. J'avais une, c'était quoi à l'époque? C'était une Opel Corsa, hein. Ouais, une Opel Corsa, donc. Même si vous accélérez très fort, ça fait pas un gros bruit, mais ça faisait quand même du bruit. Et on entend un bruit, roum, comme ça, et au fond de la rue, on voit, comme c'était la nuit, on voit des phares qui se lèvent et qui descendent, et en fait, une voiture qui sortait d'un parking souterrain. Et la voiture qui passe devant moi, c'était ma voiture. Le voleur dans ma voiture, il passe devant moi. Et il prend le virage pour aller sur le Grand Boulevard, en, je sais pas, en deuxième ou troisième, avec le frein à main. Et je dis au couple, vite, vite, on le prend en chasse. Parce qu'eux, ils avaient reconnu la voiture. Alors, le temps de faire le demi-tour, etc. Et sur le Grand Boulevard, on n'avait pas fait 100 mètres, qu'il y avait tout un groupe de jeunes qui étaient sur la gauche. Et ils m'ont tous fait signe comme ça. Et j'ai compris qu'ils me lançaient un signal. Et en fait, il y avait une station-service. Et le gars, il avait abandonné ma voiture allumée, enfin, moteur tournant, sur la station-service. Donc, j'ai pu récupérer ma voiture, ce qui était sympa quand même. Hein. Bon, c'est gentil. Hein. Mais ça vous fait drôle, hein? Ça vous fait drôle. Donc, pour le voleur, il s'était bien amusé, mais pour le voler, il s'est dit, purée, je vais rentrer à pied, c'est loin. Et comment on va faire après? Piquer la voiture. Bon, après, c'était un peu compliqué parce que pendant au moins 2 jours, j'ai roulé en branchant les fils, le temps de la faire réparer. Donc, zut, heureusement que je ne me suis pas fait arrêter avec. Le fait est que c'était un jeu. Et ben, comme quoi, ils nous aimaient bien dans le quartier parce qu'ils auraient pu la disperser en pièces détachées. Mais je pense que c'était un jeu du genre « je te parie qu'en une minute, je vole la voiture du pasteur ». Et comme c'était un jeu, ben, ils nous l'ont rendu. On interprète comme ça quand même. J'ai récupéré ma voiture. Mais quand même, ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle. Hein. Donc, y a des gens comme ça, ils n'ont pas l'impression d'être néfastes. Ils n'ont pas l'impression de gêner les autres. Et je me mets à la place de cet homme, Jacob. Jacob, il vole à son frère son droit d'aînesse. Ça signifie la préemption sur pas mal de décisions dans la famille plus tard, etc. Mais le fait est que son frère, ça l'intéresse pas trop. Il n'est pas trop branché sur ces choses-là. Lui, c'est plutôt la nature, le grand air, la chasse. Donc tout ce côté administratif, ça l'intéresse pas trop. Donc quelque part, peut-être d'ailleurs a-t-il pensé qu'il lui rendait service. Il a une phobie administrative. On va le libérer de ça. Il sera plus tranquille après. Donc peut-être qu'il s'est dit, bon, ma foi, et plus tard, quand le papa va mourir, et qu'il demande à son fils aîné, le fameux Ésaü, de venir, pour recevoir cette fois-ci une bénédiction spirituelle. C'est encore par le biais de la maman, alors c'est encore plus tordu que ça, hein, mais que le petit frère va quand même accepter de se déguiser, de faire semblant d'être son frère et d'essayer de tromper peut-être un petit peu la voix, bien qu'il n'a pas trop réussi à faire cela. Et quand son papa lui a dit « Mais tu es qui, toi? Tu es Jacob ou tu es Ésaü ?» Il a menti pour obtenir une bénédiction spirituelle, qu'il aura d'ailleurs. Mais là, finalement, son frère, qui se moquait pas mal de ces choses-là, ben, il l'a très très mal vécu, hein. Vous en connaissez, vous, des volés qui vivent très bien la chose? Des voleurs qui vivent très bien la chose, oui, pas de problème. Mais des volés, non, c'est toujours blessant. Alors, il a peut-être un profil psychologique étonnant, parce qu'il a voulu obtenir des choses bien en faisant des choses mal. Et je vous dirais que vous n'obtiendrez jamais des choses bien en faisant des choses mal. Ce n'est pas possible. Et parmi toutes les choses bonnes que vous pouvez obtenir, il y en a une par-dessus toutes les autres, c'est le ciel, c'est le salut, c'est l'éternité. Ça, c'est une chose bien. Eh bien, cette chose-là, vous ne l'obtiendrez pas en faisant des choses mal. Ça ne marchera pas. C'est impossible, c'est complètement impossible. Alors, à bien y regarder, ben, il lui est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que quand son propre frère a compris qu'il avait été lésé, qu'il avait été spolié et volé, ben, il lui en a voulu à mort. Et là, une seule solution,
s'enfuir. C'est un homme qui a fait des erreurs. Parmi toutes ces erreurs qu'il fera, il y a celle de fuir. J'aimerais vous dire que quand on a des problèmes et des difficultés, fuir n'est jamais une bonne solution. Jamais. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas bien. D'ailleurs, certains se sont enfuis après avoir commis des méfaits, ont vécu dans la clandestinité. Et savez-vous que certains ont fini par se rendre à la police parce qu'ils en avaient assez. Assez d'aller ici et là, de ne plus avoir d'identité, de ne pas pouvoir vivre libre. Ils en avaient assez. Ils préféraient payer et après être libre que vivre comme cela, entre deux eaux, à la lisière des sous-bois, sans se montrer. Ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Et lui, il va fuir. Il va faire une forme de chantage affectif, me semble-t-il, avec le premier texte que je vous ai lu. Alors qu'il s'enfuit, Dieu l'interpelle. Il fait un rêve, un songe. Et là, dans son songe, il y a une échelle qui est posée à même le sol et qui s'en va vers le ciel. On n'en voit pas trop la fin. Et puis, sur cette échelle, montent et descendent des anges. Quand il se réveille, il comprend qu'il a rêvé, mais il comprend que c'est troublant. À tel point qu'il va s'inquiéter en disant que ce lieu est redoutable. Je ne sais pas si vous craignez Dieu, mais il y a des personnes qui le craignent. Ils ne veulent pas s'approcher des choses de Dieu. Je me souviens de cette personne avec qui on avait eu un bon échange, et puis on était arrivé à parler des choses de l'Évangile, parce que c'est la base, c'est le béaba. Si vous voulez que une vie et votre vie soient réussies, il faut aller à l'essentiel. Donc, on est revenu sur le message de la Bible, ce que Dieu avait accompli, ce qu'il avait fait, tous les moyens qu'il avait mis en œuvre pour bénir nos vies. Et au fur et à mesure que je parlais avec cette personne, à un moment donné, cette personne ne s'est sentie pas très bien, mal à l'aise. Un peu suffocante, et au bout d'un moment, elle me dit on peut arrêter là, on peut arrêter là. Je lui dis, ben, pourquoi? C'est dommage, on a une bonne discussion. Non, mais tout ce que vous me dites là, ça me fait peur. Peut-on craindre Dieu? Peut-être, si l'on a quelque chose à se reprocher. Jacob, il a quelque chose à se reprocher. Hein. Et quand il se rend compte que Dieu était là, il dit, oulala, un lieu redoutable. Il va appeler cet endroit de Bethel. Bethel, Bethel, la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Sauf qu'il ne va pas rester là, il continue sa fuite. Et dans sa fuite, il va faire un vœu. Il priera, on peut le traduire comme cela. Il va prier et il va faire une forme de chantage affectif. Je l'interprète comme ça. Chantage affectif. Mais on ne peut pas faire un chantage affectif avec Dieu, ce n'est pas profitable. Il s'adresse à Dieu avec des tas de si. Hein. Je vous le répète, si vous voulez. Si Dieu est avec moi, s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, s'il me donne des habits pour me vêtir, si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Si, alors. C'est du chantage. Vous ne pouvez pas faire du chantage avec Dieu. Vous pouvez en faire avec ceux qui vous entourent. Malheureusement, beaucoup en font, si tu me quittes, je me suicide, si tu t'en vas, j'ai plus de goût à vivre, etc., etc. C'est horrible, évidemment, c'est abominable un tel chantage, mais on ne peut pas faire un chantage affectif avec Dieu, hein. Non, parce que de toute façon, ça n'a pas de sens, parce que croire qu'on ne paye jamais ses erreurs, c'est illusoire. À un moment donné, il faut faire face. Et Jacob, lui, s'en va, mais vous comprenez dans ses mots qu'il aimerait bien qu'avec le temps, tout s'efface et qu'il puisse enfin revenir un jour, tout va bien. Allez, on fait table rase, on oublie le passé. Ça n'a jamais existé, tout va bien aujourd'hui. Sauf que c'est plus compliqué que cela dans la réalité. Parce que vous pouvez vous en aller oublier, mais il y en a qui n'oublient pas. Quand vous regardez tous ces criminels de guerre, pour parler de la Bosnie-Herzégovine, quand il y a eu la guerre avec la Serbie, certains ont été jugés 10 ans, 15 ans plus tard, parce qu'ils se sont cachés, parce qu'on les a protégés, mais le jour où ils ont été arrêtés, c'était nécessaire pour toutes les victimes. Certainement pas pour eux, mais pour toutes les victimes, que justice soit faite. Et quelque part, Jacob peut s'enfuir,
Il n'en demeure pas moins que quelqu'un a été lésé, plusieurs d'ailleurs, le papa, le frère, même Dieu d'ailleurs. Finalement, ils ont été trahis. Eh bien, au moins pour le papa et puis pour le frère, ils ont été lésés. Donc il faudra bien à un moment donné faire face. Sauf que lui ne veut pas faire face, il préfère s'en aller. Mais tôt ou tard, on fait tous face à nos réalités et quelquefois, elles ne sont pas très glorieuses. Alors, je m'aperçois que cet homme qui a fait des erreurs et qui se cherche hein, parce qu'il aimerait être heureux, mais il s'y prend de mauvaise manière, c'est un homme quand même sur lequel Dieu va veiller. Et c'est là où je vois l'amour infini de Dieu. Pouvez-vous imaginer que Dieu vous aime alors que vous ne le méritez pas ? Pouvais-je imaginer que Dieu m'aimerait alors que tout ce que je faisais allait à l'encontre des intérêts de Dieu, et voire même des miens ? Pouvais-je imaginer que Dieu puisse avoir de la miséricorde, de la patience, de la compassion pour quelqu'un qui n'était ni aimable, ni intéressant ? Dieu le fait de façon extraordinaire. Il veille sur cet homme. Finalement, sa prière, très maladroite, hein, elle est montée au ciel. Combien de fois avons-nous prié, avez-vous prié, sans imaginer que cette prière pouvait aller au ciel ? Et elle y a certainement été. Et là, la prière est montée jusqu'au ciel. Un peu plus loin, on avait retrouvé Jacob, et là, ça devient intéressant, parce que même si Dieu veille sur Jacob, le parcours de sa vie va se compliquer. C'est fou comme quelquefois, quand ça commence à mal tourner, bizarrement, ça ne s'arrête plus. C'est drôle, hein ? C'est comme un tourbillon. C'est-à-dire que vous êtes à la circonférence, bon, ben, ça tourne un petit peu, et vous dites, bon, allez, je vais ramer un bon coup, puis je vais m'en échapper. Puis au fur et à mesure, vous ne faites pas attention, mais c'est concentrique, et puis c'est conique, et puis vous tombez dans le trou. Et là, vous vous rendez compte que c'est impossible de faire marche arrière. Et là, ça a été de pire en pire. Parce que quand il s'en est éloigné, il s'est rapproché de gens de sa famille, du côté de sa mère. Et puis, il s'est marié. Il s'est même marié deux fois, d'ailleurs. Mais il n'avait qu'un beau-père. Et ce beau-père était assez malin. Assez malin. Vous me direz, on ne sait pas, un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Et peut-être que ce fameux beau-père, qui était bien malin aussi, a joué un bon tour à ce Jacob, mais quelque part, ça a été salutaire. Ne faut-il pas que quelquefois des choses nous résistent pour qu'on puisse s'arrêter un peu, en comprenant qu'on n'est pas capable de tout, et surtout qu'on n'a pas raison sur tout, parce que quand tout nous réussit, d'ailleurs c'est le drame, je me souviens de cette histoire qui s'est finie de façon terrible, puisque le pauvre jeune homme, jeune motard, est décédé dans un accident. On quittait une réunion, il était assez tard, 11h, 11h30 du soir, et en traversant un petit pont pour rejoindre la route principale, il y avait une très grande courbe, mais courbe légère, mais qui allait très très loin, et qui descendait d'un village pour entrer dans la grande ville de Nice. Et un collègue a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'y avait rien, 11h30 du soir, minuit, il n'y avait rien du tout. Et donc il s'est engagé, il n'a pas eu le temps de passer première, seconde, qu'il a entendu un choc, mais alors d'une violence, une moto qui descendait, d'après les experts, entre 120-130 km/h, donc vous faites des dizaines de mètres à la seconde, donc hors de vue, puisqu'il y avait un virage. Deux jeunes gens sur une moto venaient de s'emplâtrer sur la voiture, enfin sur le côté comme ça, et la voiture est partie sur un muret, et malheureusement, le jeune homme est décédé sur le coup. La moto a été une grosse moto, hein. Elle a été pliée de l'avant jusqu'au moteur, tout a été écrasé comme ça. Dans la voiture, il y a eu plus de dégâts et plus de peur. Mais le plus tragique, c'est que le maire du village nous a dit que tout régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, mais presque, il entendait, il ne connaissait pas le jeune homme, mais il entendait la moto. Parce que le gars, il descendait toujours à fond, à tombeau ouvert, comme on le dit, tombeau ouvert. Et puis, on a su plus tard que 15 jours avant, il avait eu un grave accident. La moto avait été détruite et sur le champ, on lui avait racheté une moto. Quelque part, Les parents ont dû s'en mordre les doigts. Même si vous n'êtes pas responsable, c'est eux qui avaient racheté la moto. Et là, vous vous dites, mais quel malheur, qu'est-ce qu'on a fait? Des fois, il vaut mieux que les choses nous résistent, hein, parce qu'on peut réfléchir, quand rien ne nous résiste, hey, « Hé, j'ai besoin d'une moto, pas de problème, mon fils, achète-toi une belle moto. » « Ah, j'ai cassé la moto, vous pouvez m'en racheter une autre, pas de problème, on t'en rachète une autre. » Quand rien ne vous résiste, un jour, vous êtes face à un mur. C'est ce qui s'est passé pour ce pauvre jeune homme. Et c'est ce qui va se passer pour Jacob, parce que dans le fond, si pendant un temps, il n'y a pas eu de résistance, avant que le choc ne soit trop violent, il y a eu de la résistance. Les choses vont s'envenimer. Chapitre 31, verset 3, même verset 2. Jacob remarqua que le visage de Laban avait changé à son égard, qu'il n'était plus envers lui comme auparavant. Laban, c'est son beau-père. Il y a une dispute entre les ouvriers de cet homme et puis son gendre. Donc, verset 3, « Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » En fait, les choses s'enveniment et à un moment donné, il faut s'en aller, il faut partir. Dieu a attendu que Jacob prenne bien la mesure de ses galères. Parce que j'ai eu l'impression que jusqu'à présent, il n'avait pas pris la mesure de ses souffrances et de ses galères. Là, il va quand même en prendre conscience. Quand il va dire ça à ses deux épouses, Rachel et Léa, il va leur dire, verset 5, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Et un peu plus loin, ils vont avoir une explication tous les deux parce qu'il va s'enfuir, comme d'habitude. Hein. C'est du Jacob dans le texte. Hein. Jacob tout craché. Hein. Il va s'enfuir sans le dire à son beau-père. Rapidement, il rassemble toutes les affaires et fissa, sauf que le beau-père l'apprend, il le prend en chasse et il le retrouve. Et leur rencontre est quand même très instructive. Un petit peu plus loin, verset 36, « Jacob s'irrita et querella Laban. » Se sont disputés tous les deux. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et devant tes frères, et qu'il prononce entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait le jour et qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, mon père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. » Dites-moi, il a fait un beau travail sur lui, hein ? Vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas sûr qu'il était prêt pour l'expérience, hein ? Volontaire plutôt. N'empêche qu'il s'est rendu compte que le mal qu'il a fait aux autres, mais quand ça vous tombe dessus, c'est très dur à digérer, très dur à avaler, très dur à accepter. Et dans le fond, c'est ça. Il subit maintenant, et parce qu'il subit maintenant, il peut sans doute mieux comprendre ce que son frère a dû ressentir quand il lui a piqué son droit d'aînesse, quand il lui a volé sa bénédiction. Il peut davantage certainement s'en rendre compte. Sauf que, ben, il reste malgré tout un dernier compte à régler. Parce qu'il ne s'agit pas de dire et de prier et de s'adresser à Dieu, un peu ce que Jacob voudrait faire, en disant, bon, ben voilà, je me suis raté, je me suis trompé, j'ai bien compris, j'ai bien retenu la leçon, maintenant je reviens, déroule-moi le tapis rouge. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il y a une expérience dans la Bible qui est capitale, qui s'appelle la repentance. Jean-Baptiste dira à tous ceux qui viendront à lui et qui voulaient entrer dans le ciel, dans le royaume de Dieu, Jean-Baptiste leur dira « Repentez-vous. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. » La notion de la repentance, c'était essentiel, essentiel. Aujourd'hui, on a l'impression que, on entend certains discours où, qui sont complètement anti-culpabilisants. Il ne faut surtout pas culpabiliser qui que ce soit. Si vous ne culpabilisez pas, vous ne justifiez pas non plus. Hein. Donc le but, ce n'est pas de culpabiliser. Le but, c'est que quelqu'un comprenne ce qu'il a fait, crie à Dieu pour en être délivré et obtienne la délivrance. Sinon, ça va être enfoui, ça va être mis dans un placard, ça va être caché, mais ça ne change rien à la nature humaine. Et ce qu'il faut, c'est que la nature change. Et Jacob a besoin de changer de l'intérieur, pas que de l'extérieur. Alors, il a décidé de retourner dans son pays, puisque Dieu lui demande de le faire. Vous avez quand même remarqué que si il vivait dans un Club Med, et si tout allait bien, et que Dieu lui dit « Bon, maintenant, je pense qu'il est temps de rentrer à la maison », je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté, hein. Il aurait dit « Ouais, mais à la maison, mon frère, quand même, ici, tout va bien, personne ne me connaît, ni vu ni connu, ma vie est belle. » Mais c'est parce que c'est galère ici qu'il comprend que de toute façon, ici ou là-bas, il va falloir affronter. Un homme de la Bible dira que je tombe entre les mains du Dieu vivant, mais jamais entre les mains des hommes. Et c'est vrai, c'est vrai. Si cet après-midi, vous tombez entre les mains de Dieu et vous le chargez, lui, de vous juger, vous n'avez rien à craindre. Si vous tombez entre les mains des hommes, arrivera ce qui arrivera, hein, que pourra, allez savoir. Mais entre les mains de Dieu, ça se termine bien, en général, quand il y a un acte sincère. Et là, on voit un homme qui va être confronté à la plus grande bataille de sa vie. Il a besoin, tout simplement, de s'abaisser. Il a besoin d'être sauvé de lui-même, si vous voulez. Il a besoin d'être sauvé de son caractère, sauvé de son passé, pardonné de ses péchés, et délivrer la rédemption et la justification, les deux. Il a besoin de vivre cela. Alors, il a besoin de s'humilier, il a besoin enfin de perdre. On apprend aux enfants à perdre, n'est-ce pas? Si vous voulez que vos enfants grandissent normalement, vous leur apprenez à gagner, puis un jour, vous leur apprenez à perdre. Non? Enfin, essayez quand même, hein. Peut-être que ça marchera. Mais vous verrez très rapidement que quand l'enfant gagne, il est tout content. Et quand l'enfant perd, il est tout content. Non, il n'est jamais content. Il n'aime pas perdre. Parce que quand il gagne, et que vous l'avez laissé gagner, il est persuadé que c'est parce qu'il est le meilleur. Et quand il perd, il se rend compte qu'il n'est pas si meilleur que ça. Et c'est dur à avaler, hein. Même pour un enfant de 4 ans. Hein. C'est dur à avaler. Hein. Mais s'il n'apprend pas ça à 4 ans, ce sera plus dur à 25 ans. Hein. Et que dire à 80 ans? Que dire à 80 ans? J'en ai connu quelqu'un comme ça, on appellerait ça des durs à cuire. Hein. Ouais, des durs à cuire. Des gens très durs, très sûrs d'eux. Ce qui avait fait dire d'ailleurs à un pasteur un jour, qui baptisait quelqu'un qui avait été un dur à cuire. Il dira ceci, voyez-vous, cet homme était un dur à cuire, et bien nous on l'a cuit. S'il se faisait baptiser. On l'a cuit. Dur à cuire. Jacob, c'était un dur à cuire. S'abaisser, s'humilier, ce n'est pas son genre. Sauf que tu vas devoir aller affronter ton frère, et qu'est-ce que tu vas lui dire? Bon, je trouverai, on va s'en sortir, une parade, il y aura quelque chose. Et on voit que jusqu'au bout, il va être pas mal malicieux hein, dans ses attitudes et dans ses gestes. Mais Dieu l'attend. Et Dieu va l'affronter. Chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça a duré des heures. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Savez-vous que Jacob restera boiteux tout le reste de sa vie? Jusqu'à sa mort, il boitera. Il aura de quoi se souvenir cette bataille. Hein. C'est comme une cicatrice. Hein. Quelqu'un qui a une marque, une cicatrice, il sait d'où elle vient. Hein. Il s'en souviendra toute sa vie. Et là, Jacob, finalement, se bat. Peut-être devrait-on dire comme un diable. Ouais.
en tous les cas, comme quelqu'un de très, très, très vénal et humain. Et Dieu l'interpelle en lui disant « Quel est ton nom ?» Il dit « Je m'appelle Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » De cet endroit, Jacob retiendra une chose, un nom, Péniel. Il appellera cet endroit Péniel. Péniel, ça signifie la face de Dieu. Et il dira, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vous voulez être sauvé? Vous devez voir Dieu face à face. Vous voulez être sauvé? Vous devez aller le rencontrer et avoir un entretien avec lui. Pas avec des hommes, c'est pas avec des prêtres, des pasteurs, des hommes religieux quelconques que vous devez avoir rendez-vous, c'est avec Dieu. Lui a eu enfin ce rendez-vous-là avec Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que son histoire avait commencé à un endroit qu'il appellera Bethel, la maison de Dieu. Ça commence à Bethel, mais ça s'explique à Péniel, dans ce sens qu'il a fallu un cheminement pour arriver à être plié en deux, presque ventre à terre, pour reconnaître que son âme avait été sauvée, parce que quelque part, son âme était perdue. Vous ne pourrez jamais apprécier le salut si vous ne réalisez pas que vous êtes perdu. Vous ne pourrez jamais comprendre le salut et la croix, là où Jésus meurt, si vous ne réalisez pas que vous êtes condamnable et condamné. Alors, je conclue. Finalement, Jacob avait besoin d'être sauvé, et sauvé des autres, et sauvé de lui-même. Et plus tard, il va rencontrer son frère, et curieusement, la rencontre va être super. Personne ne l'aurait imaginé. Dès que son frère le retrouve, 20 ans plus tard, après tout le préjudice qu'il a subi, il nous est dit qu'il se jette à son cou et il l'embrasse. Qui peut faire ça sinon Dieu? Qui peut enlever la colère sinon Dieu? Qui peut enlever la dispute sinon Dieu? Qui peut enlever la révolte sinon Dieu? Qui peut réparer le préjudice sinon Dieu? Que Dieu qui est capable de réparer un tel préjudice. Alors, on ne fait pas que passer à Bethel. On doit y faire sa demeure et on doit s'installer. Vous avez vu au chapitre 35, on est à la fin de cette aventure. Dieu le renvoie à Bethel. Tu as commencé là en me disant « si, 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 alors ?» Eh bien, puisque tous les six se sont accomplis, alors, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il le renvoie à Bethel en lui disant maintenant « faut sceller une alliance, hein, faut sceller une alliance. » Établissez cet après-midi, à partir de maintenant, une vraie relation durable avec Dieu. C'est la meilleure des choses que vous pourriez faire. Ce sera la plus belle. Faites de cette prière un serment, un réel serment inaliénable. Dans cette première rencontre à Bethel, il y avait une échelle. Je vous l'ai dit, une échelle avec des anges qui montaient, qui descendaient. Finalement, cette échelle, cette route, si vous voulez, avait été disposée près de Jacob, et des anges l'ont souvent emprunté, certainement, pour venir l'aider, hein, pour le protéger. Des anges gardiens, il en a eu. Hein. Sauf que, dans la dernière aventure de Bethel, il nous est dit que Dieu était avec lui et que Dieu s'est élevé au-dessus de lui. Je me plais à penser qu'il a dû emprunter la même échelle dans l'autre sens. Jésus dira à un homme qui s'appelle Nicodème, « Qui est monté au ciel, sinon celui qui en est descendu ?» Et qui, étant descendu, pourra seul y remonter en prenant victoire sur la mort, c'est ce même Jésus-Christ. Cet après-midi, il est possible de découvrir la grâce parce que dans le fond, c'est Dieu qui a décidé de s'occuper de vous. C'est Dieu qui a pris votre destin en main. C'est Dieu qui a pris votre vie en main. Alors, puisqu'on n'a qu'une seule vie, il ne faut pas rater le voyage. Hein. C'est le voyage de votre vie, en fait. Ce parcours et cette rencontre avec Dieu, ce n'est pas initiatique. Hein. C'est juste... Une belle expérience. Ce n'est pas un parcours pierre par pierre, étape par étape, marche après marche. Non, on peut être au fond du trou, là maintenant, et dans 2 minutes être au ciel. Manière physique ou figurée d'ailleurs. Mais en tous les cas, on peut rapidement monter au ciel. On peut rapidement sentir Dieu s'élever au-dessus de nous et nous emporter avec lui pour nous détacher de nos malheurs et de nos difficultés parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il est vivant. Il sauve encore aujourd'hui, il délivre encore aujourd'hui. Ne voulez-vous pas faire cette expérience? Jacob, un homme qui se cherche comme vous. Jacob,
quelqu'un qui a fait des erreurs comme vous, Jacob, un homme sur lequel Dieu veillait comme vous, un être humain sur lequel Dieu veillait comme vous, mais un homme qui a dû se courber, être humilié, s'abaisser, se repentir, accepter. Le ferez-vous cet après-midi? C'est là que tout se joue. Si vous faites ce pas de la foi, ce fameux lâcher-prise, si vous abandonnez tout entre les mains de Dieu, vous allez être béni. Je vous garantis que vous allez être béni et qu'à partir d'aujourd'hui, mais votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques instants? Seigneur, nous venons encore devant toi parce que nous sommes heureux d'être à toi, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de parler de toi, nous sommes heureux de confesser cette réalité d'un Jésus qui sauve et qui délivre. Seigneur, merci pour le beau témoignage de Jacob qui est arrivé à la conclusion que Dieu l'a aidé dans le voyage de sa vie malgré toutes ses détresses. Il n'a cessé de veiller sur lui, c'est ça la réalité, même s'il s'est égaré bien des fois. Merci d'encourager, de bénir celui ou celle qui s'est égaré jusqu'à maintenant, qui a perdu pied dans tout un tas de domaines. Je te prie d'étendre ta main et de te glorifier. S'il te plaît, agis, je t'en prie. S'il te plaît, manifeste-toi maintenant au nom de Jésus. Je veux te donner gloire et te remercier pour ta bienveillance. Étends ta main, au nom de Jésus, étends ta main et glorifie-toi, Seigneur. Amen.